mouillée.
Jusqu'au mou.
Nous sommes en l'an 4719 du calendrier chinois. Le Groenland se fait liposucer sa glace par les vagues de chaleur successives. Pendant que le niveau des océans monte, la revue Ancrage équipe et déploie cette bouée de sauvetage littéraire préventive pour sauvegarder une part d'oralité de la côte orientale.
Bonjour Georgette, ça va?
Ça va très bien.
il faut se mettre dans le bain un peu.
Il fait fret, mais ça va bien.
Ça fait un bout qu'on s'est vu en plus.
Je sais. Mais on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler du temps qui passe.
Pourtant, c'est une thématique universelle.
Ben non, parce que
c'est bien celle-là.
Dans le monde balado, il n'y a pas de temps, n'est-ce pas?
C'est vrai, le temps est mort.
Le temps est mort.
Il n'existe plus. En fait, bienvenue quand même.
Ben,
épisode...
on peut bien se dire allô.
On peut bien se dire allô. Épisode 17 de Mouiller jusqu'au mot. 17, peux-tu croire?
17.
C'est un autre numéro libre, encore une fois. Et comme tous les numéros libres, c'est toujours un peu plus compliqué d'en jaser parce qu'on n'a pas le... toi et moi, on ne peut pas discuter la contrainte, qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. C'est des textes qui arrivent en bloc. Puis ce qu'il faut faire, évidemment, c'est faire un tri puis choisir des textes qui seront publiés. Ce qui est le travail que j'ai fait avec David Descaries et Mélissa Haché dans ce numéro-là. Le processus, c'est à peu près toujours le même pour choisir des textes. Enfin, quand je m'en mêle, peut-être que ça varie quand c'est d'autres personnes qui le font, mais c'est assez simple. Chacun de notre côté, on lit tous les poèmes ou textes nouvelles qui ont été envoyés. Puis on fait notre shortlist, les 10 ou 12 qu'on préfère. Et ensuite, c'est le grand combat des chefs. On se rencontre au restaurant, puis on discute à savoir quel choix on a fait. Puis quand on a des choix qui sont différents, bien, on en discute un peu, puis on essaie de savoir lequel sera publié parmi tout ça. Donc, c'est pas des gros combats, là.
Non,
ça s'est rarement terminé au couteau, là. Il y a peut-être une fois. David est assez violent quand il se met, là.
Ouais.
Bonne raison de ne pas écrire un poème. Parce que, à quoi bon? Le monde en est plein à craquer. Parce que, qui je suis pour penser que ce que je pense gagne à être écrit? Parce que, peur que l'essai se transforme en échec et l'échec en montagne. Parce que peur de toucher à quelque chose alors que je viens juste de ranger. Parce qu'il fait soleil. Parce qu'il fait pluie. Parce qu'envie d'en parler avec autre chose que mots, comme danser les saisons qu'il n'y a plus. Parce que peur de ressortir du poème un nouveau feu dans la poitrine. Parce que peur des yeux. Des oreilles, des bouches, des gens. Parce que peur des gens qui savent pourquoi et pour qui la poésie. Parce que le téléphone sonne, que je ne réponds pas comme le silence se fait en moi. Parce qu'il fait jour, parce qu'il fait nuit. Parce que pas envie de jouer avec l'interrupteur ni avec les ombres, plutôt avec le chat. Parce que peur de m'apercevoir que la ligne d'arrivée est la ligne de départ.
C'était Myriam O. On n'a pas vraiment eu de grosses discordes à savoir quel on allait prendre ou non. Tous les textes qui ont été choisis, les trois personnes qui devaient les juger, les avaient tous et toutes très appréciés. Ceux qu'on a enlevés, ça crève toujours un peu le cœur. C'est ceux qui étaient... que moi, par exemple, moi et David, on avait choisi Mélissa non, ou deux autres et pas moi. Donc, quand c'était pas unanime, dès le départ, on pouvait laisser tomber. Moi, j'étais content parce que j'ai toujours... ma voix vient de briser.
17 ans.
C'est les hormones qui fonctionnent. Oui. Bientôt, j'aurai mes propres seins. Tu vois, ça, c'est parfait pour la pédagogie, c'est circulaire. Tu vois, mon cerveau vire en rond comme tel le poème d'Émilie Turmel dans le texte.
Vrai.
Je ne sais pas si tu l'as vu, si tu l'as lu celui-là.
Oui, il revient, c'est ça? C'est comme une boucle.
Oui, ben, oui, exactement, c'est ça. On a eu des questionnements sur celui-là parce qu'on ne savait pas comment... Parce que la façon que le poème est fait, c'est que c'est comme la suite de Fibonacci, là,
oui.
Une espèce de colimaçon qui tourne et tout ça. Et le texte suit, fait le tour du centre, là, comme la galaxie, comme la Voie lactée à peu près. Comme le texte est visuel, puis il se lit d'une étrange façon, il faut comme le tourner constamment pour le lire. Puis sur l'écran, à chaque fois qu'on bouge l'iPad, il y a une rotation qui se fait. Donc, tu es toujours en train de courir... après le prochain mot sur l'écran. Là, c'est une drôle d'expérience. Fait que toute l'idée du tourbillon qui devient un peu mêlant ou je ne sais pas comment l'exprimer, le confus et qui, la spirale et tout ça, mais on le sent même visuellement avec le poème parce que l'acte de lire sur un écran est extrêmement complexe. Donc, on avait hésité juste pour cette raison-là, puis on s'est rendu compte que la raison qui nous faisait hésiter, c'était la meilleure raison pour laquelle il fallait publier. Parce qu'il y avait justement cet aspect-là dans tout ça.
Tout m'enroule au teint, tout autour du teint, autour de moi-même. Je suis casse-gueule, poupée russe dragéifiée, écorce des planètes, cerne concentrique des séquoias, tête de violon. Je déroule mon dos, me déroule vertèbre par vertèbre, jusqu'à la queue de la comète, spirale de porcelaine aspirée. Je passe ma vie à m'enrouler, me dérouler, fougère, coquillage, vague, ouragan. La vie roule. Je suis chaîne de lettres et chapelet de famille, maillon manquant, la dernière et la première. Je suis un corps sortant d'un corps, sortant d'un corps, traversant le miroir, puis deux, pure coïncidence des visages, des figures possibles, répliques lancées au hasard de l'oreille absolue, l'œuf primordial, le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Dans mes cavités orbitales, des galaxies de carbone aléatoire, mitraillées pour le plaisir de qui, de quoi. Je m'enroule, me déroule, je, toujours, je, contiens infiniment, je.
Là, dans ce numéro-ci, on a quand même quelques nouvelles, dont une très longue, là, Henri de Dominique... Parat, qui s'appelle...
Que t'aimes, que t'as aimé.
J'ai vraiment aimé. Et ce texte-là, c'était absolument unanime. Je pense que les trois, après trois paragraphes, c'était comme, c'est parfait, on l'inclut. Ça peut pas aller ailleurs. Puis c'est un texte extrêmement intéressant, là, qui va dans tous les sens un peu, qui devient un peu trash, drôle, pas drôle. Il y a des parties en italique, il y a plein d'éléments qui changent tout au long de la nouvelle. C'est vraiment un texte qui est spectaculaire, là.
Dominique Parat. Moi, je suis... qu'est-ce que je suis? Je suis toutes sortes de choses, mais je suis avant tout écrivain, poète, auteur de nouvelles, auteur de romans qui n'ont pas forcément été publiés en entier, et choriste, parce que depuis plusieurs années, je chante beaucoup, enfin, etc., etc., etc. Ça fait 50 ans que je travaille vraiment dans le milieu littéraire acadien. On est en 2023, 1973, j'étais en Nouvelle-Écosse en 72 ou en 72, comme on dit à Paramba, ce qui est le même usage que l'usage suisse d'ailleurs. Et il y a une certaine valeur à ce lieu de naissance, dans le sens que c'est très amusant, mais quand on me demande quelle était votre première langue que vous avez entendue et que vous comprenez encore, en fait, c'était pas le français, c'était le dialecte bernois parce que j'ai passé mes premiers mois dans une clinique pour des raisons qui avaient à voir avec le fait que j'étais né trop tôt, bon, etc. Et les femmes me chantaient des chansons en dialecte suisse-allemand parce que c'était tout ce qu'elles parlaient. Donc le français, c'est venu évidemment après automatiquement. Mais Berne a été pour moi une révélation importante dans le sens que c'est là que j'ai commencé à savoir ce que c'était que vivre en minoritaire. J'étais minoritaire francophone dans un environnement de langue allemande. avec tous les problèmes, toutes les réactions, toutes les attitudes que ça suppose. Et je m'aperçois, par exemple, en parlant avec des Français de France ou avec des Américains, qu'ils n'ont pas cette conscience de minoritaire.
Ils attendent les 42 juges. Ils sont tous là, et devant eux, la balance dans laquelle on pèse le cœur des humains pour vérifier qu'il est plus léger que la plume de Matt, la vérité. Tôt ou tard, tous les humains doivent passer devant ces 42 juges du tribunal d'Osiris. Il y a là Caverne, la valeur d'ombre, le juge numéro 4, à qui on doit dire « Je n'ai pas dérobé ». Rose Taou, terrible de visage, qui attend les assassins. Briseur d'os, à qui on doit jurer qu'on n'a jamais dit de mensonge. Oui, ils sont tous là. Ils attendent, immobiles, effrayants.
Ce qui frappe, je pense, au départ, et c'était un peu l'idée dont je suis parti, c'était le fait que tu as une mythologie qui est celle de l'Égypte ancienne pour le passage après la mort, c'est-à-dire que tu as en quelque sorte ce qu'ils appelaient la pesée des âmes, c'est-à-dire que selon les saloperies que tu as fait ou pas fait dans ta vie, ton âme va être plus ou moins lourde. Et on va me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on a à faire des dieux de l'époque pharaonique ? On vit dans, et on revient à cette notion d'espace un peu ambigu, on vit dans un monde où on invoque des dieux anciens tout le temps. Le serment d'Esculape qui est prêté par les médecins, il est prêté par les médecins devant les dieux de l'Antiquité grecque. On vit des réalités où les mythologies anciennes ou différentes sont bien présentes. Et quand tu es allé en Inde, par exemple, tu sais que ces mythologies anciennes sont toujours très, très actuelles pour un très grand nombre de gens. Donc, j'ai trouvé intéressant de prendre cette pesée des âmes et de la relier à une chose qui, alors de façon beaucoup plus quotidienne, m'avait frappé au Dollarama. Au Dollarama, quand tu vas aux caisses automatiques, tu as un plateau sur lequel tu vas mettre le sac dans lequel tu déposes tes objets. Et en fait, ce plateau pèse tes objets. Donc, si tu achètes, mettons, une boîte de conserve de, je sais pas, de boulettes de viande en sauce, et que tu essayes de tricher sur le prix en disant « Non, non, ça, c'est en fait un crayon, donc c'est pas 2,50 $, c'est 50 cents », la machine va te dire « On regrette, mais le poids ne correspond pas à ce que vous avez indiqué sur la commande. » Et je me suis dit, bon, peu à peu, les magasins devraient mettre en place ou pourraient mettre en place un système par lequel littéralement on pèserait les clients à l'entrée et on les pèserait à la sortie. Et si quelqu'un avait glissé des choses dans son sac, dans ses poches, etc., ou alors était parti discrètement dans les toilettes de Walmart manger un sandwich qu'il ne voulait pas payer, ça se verrait automatiquement. Donc, c'est parti de cette idée-là, qui est un peu une idée de science-fiction. Et après ça, ça a tourné autour d'un personnage féminin.
Lorna, paniquée, embarque dans l'ascenseur. Après un petit trajet de bus, il pleuvait comme durant une grande partie juin, hélas, elle se retrouve dans le monde familier de l'hypermarché Freepool. Il y a quelque chose de rassurant d'y être accueilli par Henri IV en personne. Non seulement un grand portrait, mais un préposé à l'accueil habillé en roi. Peut-être un jour, ils auront besoin d'une reine, se dit-elle en passant les portillons électroniques.
Qui va l'amener à une situation que j'ai beaucoup aimé écrire, même si elle est horrible, qui est la situation où tu as quelqu'un qui débarque dans un magasin, ce sont les magasins qui s'appellent Freepool. Les magasins Freepool sont victimes d'un attentat terroriste, de quelqu'un qui débarque et qui se met à tirer avec une mitraillette sur tout le monde. La raison de ça, c'est pas mon imagination perverse et déjantée. C'est arrivé. J'habite à côté d'un centre commercial où trois jeunes, il y a trois ans, je pense, avaient décidé de faire le jour de la Saint-Valentin un massacre et de le faire en tirant à la mitrailleuse sur l'ensemble des clients du centre commercial. Ils ont été arrêtés par miracle, par véritablement un hasard, mais je rappellerai aussi que, et là c'est peut-être l'auteur de Polar qui joue, mais on a eu en Nouvelle-Écosse quand même la pire tuerie au Canada, bien pire que le fameux massacre de Montréal qu'on célèbre et à juste titre régulièrement, avec ce qu'on a appelé la tuerie de Porte-à-Pic, un homme qui est habillé en policier avec une voiture à 99% identique à une voiture de police, a tué 23 personnes et en aurait probablement tué beaucoup plus s'il avait eu l'occasion. Donc ça fait réfléchir. Alors il y a tout ça dans Lorna.
Il saute par-dessus les poulets qui jonchent le sol et court vers le rayon des pastèques. Un melon d'eau éclate à deux pas de Lorna, et puis Farouk crie et tombe. Elle voit du coin de l'œil gauche qu'Henri IV est par terre, lui aussi. Elle voit jaune et rouge. Elle a l'idée saugrenue qu'on assassine le bon roi Henri une nouvelle fois. Elle continue de courir alors que les pastèques éclatent les unes après les autres sous le feu roulant de larmes, comme dans un film. Ça n'a pas l'air vrai, ce jus rouge vif se mêlant au sang plus foncé. Elle prend par la main la petite fille terrifiée, elle se jette par terre pour la couvrir de son corps, au coin d'un chargement de blé d'Inde, et c'est là que la balle la frappe en pleine tête. Elle a juste le temps de crier, crier, crier à tue-tête, alors que sa tête éclate. Ah!
Henri Dominique, je l'aime depuis longtemps parce qu'il avait écrit à un moment donné une lettre au petit courrier. C'était l'équivalent du moniteur acadien. Non, l'Acadie Nouvelle, la Nouvelle-Écosse, en tout cas. Puis à un moment donné, parce qu'on avait interdit les enfants au bistrot. Le bistrot, c'était la grande soirée à la fin du festival ou pendant le festival acadien de Clare. Puis c'était comme une soirée de musique dans l'aréna, là, mm-hmm. du coin. Puis on avait interdit les enfants d'y participer parce qu'il y avait de la bouse et puis potentiellement des soucis. Fait Dominique avait dit, ben là, vraiment, là, tu sais, du coup, tu sais, il se souvenait dans sa lettre, là, il trouvait ça fou, puis à quel point c'était stupide d'interdire des enfants. Puis quoi, depuis quand on voit-il des sous tomber sur des enfants? Comme non, non. Là, ça arrive. c'est trop.
Non, mais t'es pas obligé de leur donner de la bière non plus aux enfants.
Ben hein. Non, non plus. T'sais, là, mais c'est ridicule. C'est ridicule tout ça.
Dans le numéro dont on parle, on a choisi un de tes textes.
Oui. C'est un poème qui parle du narrateur du prochain recueil, là, celui que je suis en train.
C'est comme un avant-texte.
Oui, c'est un avant-texte, c'est ça. Parce que moi, mon problème avec la revue littéraire, puis la raison pour laquelle j'ai un petit peu comme... C'est pas à regret ou à reculons là, que je participe à Ancrage, mais c'est que j'ai jamais écrit de poème. J'ai tellement comme une façon de penser à mes recueils comme romanesques, comme des mm-hmm. romans, que je sens pas que j'écris vraiment des poèmes.
Mm.
Mais c'est pas vrai, ça, parce que j'écris des poèmes. Je suis comme... Je joue avec ça, la forme. Tu sais, là, c'est fait... Je sais pas.
Mais ça s'appelle aussi « Prise d'un livre en construction ».
Ouais, « Prise », ben, je sais pas, c'est comme la 45e version d'un poème.
C'est comme une « take ». C'est comme
oui, c'est ça. Oui. « Take 5 », la « Take 45 », « Take » je sais pas combien de fois. Je peux réécrire un poème 45, 6, 7 fois. Il alla y raconter l'histoire. Il alla tout y dire. C'est ça qu'il se disait en marchant au café, en commençant à marcher en direction du café, vers le café, à traverser le parc, le carré pour. Il racontait l'histoire. Il alla tout y dire. C'est ça qu'il se disait en marchant au café, en commençant à marcher en direction du café, vers le café, en traversant le parc, le carré pour le café. Il, lui, c'est pas d'homme. c'est moi. Je suis le personnage et son auteur en même temps. La première et la troisième personne du singulier, c'est moi. Qui se dit sans traverser un corps et pour me rendre au café, je me vois encore traverser, marcher, je me souviens de ça. Il allait raconter l'histoire. Il allait tout y dire. Pas toi, lectrice, lecteur, à Yel. Yel qui est restée au lit, qui dort, qui attend son café, qui l'attend, qui ne sera peut-être plus dans quelques pages, je sais pas. Dans le fond, c'est un texte sur des questionnements par rapport au personnage principal, au narrateur du recueil qui s'en vient.
En plus du narrateur, t'imagines?
Oui.
C'est le narrateur qui ne sait pas trop il est qui.
Oui. Puis il est, ça fait que c'est ça, il est. Le narrateur, c'est lui, c'est moi. Parce que ça aussi, c'est tout le discours autour de. Souvent, on pose la question, je ne sais pas si on t'a déjà posé la question, ou Paul, tu sais, là, comme, oh, Society, so-and-so, tu sais, là, comme, dans ton poème, Society, tu sais, là, comme, Amédée, c'est.
Comme ils font avec Taylor Swift.
Exactement, Society Boyfriend numéro 3 ou 4, ou Society ton époux 2, ou tu sais, là, qui c'est qui? Puis ça me tanne, ça m'agace.
Tu te demandes ça pour vrai?
Ah oui, ça, ça m'agace. Ça, ça m'agace. À la, je sais pas, 200 millions. C'est parce que c'est jamais. C'est réduire l'expérience d'écriture comme ça. Plus, je sais pas, c'est stupide.
Puis ces questions-là, c'est que tu es obligé de les répondre quand on te pose. C'est pas comme si tu peux dire, ah, fuck you,
par d'autres choses. Puis c'est vrai qu'on s'inspire de, nos histoires, puis notre vécu, mais c'est pas. C'est jamais directement lié à. C'est pas comme des portraits de mes ex, là.
Oh, mais there goes mes 6 prochaines questions.
Je suis Joanie Serré. Je suis une écrivaine qui vient du Nouveau-Brunswick. Je spécialise en poésie. Puis j'ai... s'il faudrait que je me résume en comme pas beaucoup de mots, je serais une bébête à sucre. Pour moi, le fait que c'était un numéro libre, ça l'a un peu... pas que j'essayais des nouvelles manières d'écrire, mais ça m'a un peu permis de faire « OK, comme je veux faire de quoi que j'ai jamais fait avant. » Ça peut être... C'est un numéro libre, donc ça peut être « Qu'est-ce que je veux? » Donc, moi, j'ai fait un texte qui s'appelle « Nucleus », qui est dans... C'est le numéro 32. Puis c'est vraiment plus inspiré sur la guerre en Ukraine. Puis une genre de phobie que c'était comme tu peux pas arrêter cette guerre là physiquement, je suis une personne, c'est comme fait que c'est vraiment une sorte de ode à si je pourrais aider, c'est ça, c'est un poème pour moi qui m'a permis d'une certaine manière de essayer d'aider.
Tout commence par tes yeux, un 6 de circonstance. Ils sont les premiers avalés, les premiers servis. Tes enfants, leur corps, ton vulgaire que nous portons, nous t'avons choisi. Blanc braise, on marche, renifle, crois toucher ce qui reste de ton écho, ton air. J'entends la terre se moller sous mes lèvres. Tu t'offres, bouillant, les mains au sol, les atomes qui se foulent avec précaution. Bonjour, Nucleus, nous t'avons choisi.
J'ai soumis un manuscrit au prix Antonine Maillet. Puis quand quand j'ai fait ça, j'ai tout de suite genre de tomber dans le, OK, faut que je trouve où est-ce qu'il y a la poésie qui est pas nécessairement comme physique, où est-ce que je peux lire plus de poésie, puis j'ai tombé sur un crash. Puis c'est impressionnant comment est-ce que, on va dire, une bibliothèque numérique comme ça peut faire te faire voir de quoi de nouveau, comme c'est toutes des auteurs que je suis comme « Oh my God, j'ai jamais lu ces auteurs-là », comme Ancrage, pour moi, ça a vraiment été un genre de nouveau, techniquement une nouvelle place juste à aller pour comme lire puis apprécier, puis ça, j'ai tombé dans le genre d'idée de comme « Si elles autres peuvent publier sur Ancrage, peut-être bien que moi aussi », fait que j'ai attendu... le prochain appel au texte, puis j'ai pu soumettre, mais c'est tellement cool. Si je m'engorde à 16 ans, sa fille, sa jeune là de 16 ans, c'est tellement fière, genre, qu'elle se rendue là. Puis moi aussi, je suis fière, mais juste de comme. Ça fait du bien un peu de voir que tes rêves peuvent se réaliser, genre. T'sais, si tu travailles assez fort, tu vas pouvoir avoir ton nom. Peut-être parmi ceux-là que tu respectes le plus, genre.
Mouillé jusqu'au mot. Une production de la Revue acadienne de création littéraire Ancrage. Animation, Joël Boilard et Georgette Leblanc. Enregistrement, montage, mixage et matrissage, Jonathan Saunier. Musique, Jonathan Saunier, Christine Melançon et Alpha Romeo. Conception, Jean-Pierre Casey. Coordination, Rachel Dupérault. Réalisation, Paul Bossé. Nous souhaitons remercier nos partenaires sans qui ce balado n'aurait jamais vu l'air. Le Conseil des arts du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.